Radio Barque, troisième, celle qui est consacrée, c'est devenu vraiment une tradition, c'est absolument incontournable, à nos invités, puisqu'aujourd'hui nous en avons plusieurs. Donc le thème, c'est le harcèlement scolaire. On va commencer par demander à l'auteur du film, Patrick Milani, qui en est l'auteur, à la fois le cinéaste, si je puis dire, et puis le scénariste. Patrick Milani, donc vous êtes enseignant au lycée Louise Michel. Comment vous est venue l'idée de ce thème? Parce que le cinéma, vous y avez déjà touché, mais ce thème particulier?
Oui, il y avait déjà plusieurs années qu'on travaillait avec des élèves pour faire des films. Donc chaque année, l'idée, c'est de voir ce que les élèves ont envie de faire et d'essayer de... Moi, généralement, même le cinéma que je fais globalement, c'est quand même un cinéma qui a une composante sociale importante. Donc là, il me semblait, par mon vécu de prof, que ce sujet du harcèlement était quelque chose sur lequel il était intéressant de poser un regard, quoi. Ça me semblait assez actuel, quoi, pour pouvoir travailler là-dessus.
Mais est-ce que c'est quelque chose, qu'est-ce que c'était, un ressenti, quelque chose que vous ressentiez, vous, ou que vous aviez des exemples précis?
Oui, effectivement, je le ressentais. C'est-à-dire qu'en tant que prof, on voit bien qu'il y a des problèmes. On voit bien, quand on fait notamment les conseils de classe, hein, il y a des problèmes qui remontent. C'est-à-dire qu'un prof, lui, il ne perçoit les choses que d'une manière un peu parcellisée, puisque lui, il a les élèves 2-3 heures par semaine, puis les collègues les ont 2-3 heures. Donc, on ne sait jamais tout. Et au moment des conseils de classe, des fois, c'est vrai qu'il ressortait de plusieurs enseignants que certains élèves, apparemment, étaient des proies faciles. Par contre, quand j'ai lancé ce thème-là, je ne me doutais pas de l'importance réelle du sujet. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, j'ai l'impression vraiment, et le film l'a montré par les commentaires de ceux qui ont vu le film sur YouTube, c'est-à-dire il y a déjà à peu près 1200 commentaires d'élèves, hein, qui se sont saisis du film pour en même temps raconter leur souffrance. Et je ne me doutais pas de l'importance du phénomène, quoi.
Oui. Alors nous avons avec nous, parmi les deux élèves qui ont été acteurs ou actrices de ce film, Émilie Deschamps. Émilie Deschamps, vous êtes aujourd'hui donc au lycée Louise Michel, mais vous avez, avant d'être actrice dans ce film, vous avez été victime, je crois que c'est le mot qu'on peut dire à ce niveau-là. Racontez-nous ça, comment les choses se passent.
Alors oui, j'ai été victime d'harcèlement au collège.
Donc, vous, c'est au collège, hein, oui. Pas au lycée, précisons non. Bien.
Donc j'ai passé 4 ans refermée sur moi-même parce que j'étais pas comme eux.
Alors vous étiez pas comme eux. Qu'est-ce que ça veut dire, ça?
Ben j'avais déjà une forte poitrine, j'étais un peu rondelette, j'avais des lunettes.
Alors quel âge, chez collège, quoi, 13 ans, 14 ans?
12.
12 ans, oui.
Et donc du coup, ben on m'insultait, on me trouvait des surnoms. Le surnom qui revenait tout le temps, c'était Bouboule. Voilà, on m'insultait de pute, de salope. On a commencé à donner des rumeurs sur moi en disant que j'avais couché avec beaucoup de garçons. Après, ben, j'avais des copines. Et je pensais que c'était mes copines, mais en fait, elles aussi, elles m'insultaient.
Elles mettaient de l'huile sur le feu, quoi, en quelque sorte. Oui.
Oui. Et ben, du coup, je me suis renfermée sur moi-même de plus en plus. Je suis restée toute seule. Et j'en ai jamais parlé à personne. Je rentrais chez moi, je pleurais tous les soirs.
Et vos parents non plus?
J'arrivais pas à leur parler.
Vous ne pouviez pas, oui.
Alors que pourtant, avec ma mère et mes parents, je peux parler comme je veux. Je leur parle souvent, mais là, j'avais trop honte de moi, en fait.
Mais c'était devenu un sujet tabou pour vous.
Oui.
Et alors, comment ça se passait, toutes ces rumeurs? On vous les disait face à face, ou alors, comme maintenant, par le biais des réseaux sociaux, par Facebook et autres?
C'était plus face à face. Sur Facebook, c'était moins. C'était souvent Bouboule, on a quoi à faire pour demain. Intello, on a quoi à faire pour demain. Enfin, là, c'était des trucs bidons, mais c'était surtout en face à face.
Oui, ce qui est surprenant, parce qu'aujourd'hui, on a tendance à dire que c'est les réseaux sociaux qui ont exacerbé, qui ont aggravé le problème.
Oui, là, en ce moment, je vois plusieurs personnes qui m'ont déjà parlé de leur harcèlement. C'est par rapport aux réseaux sociaux. Et moi, non, ça a été plutôt à l'école, quoi.
Et alors, quand Patrick Milani a fait appel à vous pour être actrice de ce film, qu'est-ce qui s'est passé dans votre tête?
Ben, au début, j'ai eu tout qui est.
Est-ce que vous avez dit oui tout de suite ou vous avez eu des réticences?
Non, j'ai dit oui tout de suite parce que je préfère qu'on en parle plutôt que tout le monde reste dans son coin, qu'au moins que tout le monde voie la réalité de ce que font certaines personnes.
C'est-à-dire, vous ressentiez la nécessité d'un témoignage public?
Oui.
Donc, vous avez dit banco tout de suite. Et alors, dans la façon d'interpréter, est-ce que votre ressenti, votre expérience transparaît dans la façon dont vous jouez ça dans le film?
Quand je joue le rôle de la méchante, bah, du coup... Fin...
Oui, parce que là, vous jouez le rôle inverse.
Oui. Ben, je joue le rôle de la méchante, mais en fait, je sais pas comment, je le ressens pas, en fait, comment dire.
Oh, je crois qu'il faut distinguer le moment où on est acteur du moment où...
Ouais. Oui, voilà, c'est ça.
Quand on joue un rôle, on n'est pas forcément celui qui joue Hitler, c'est pas Hitler.
Oui, la moustache mise à part. Et alors, nous avons également Marianne Ferré qui, elle, fait le rôle de la victime dans le film. Rassurez-nous, Marianne Ferré, vous n'avez pas eu dans la vie courante ce genre de problème.
Non, moi, j'ai jamais été victime. Je l'ai été dans le film pour le personnage. Mais dans la vérité, ça m'est jamais arrivé.
Et alors, vous, justement, est-ce que vous êtes entrée dans la peau de ce personnage facilement, puisque vous n'aviez pas ce vécu?
Ben non, moi, c'était difficile de jouer un personnage comme ça, très sérieux, attristé et tout, parce que je suis quelqu'un d'assez souriante et ouverte. Et c'était difficile pour moi de faire une personne triste, renfermée et isolée.
Et alors aujourd'hui, dans le film que vous avez fait, Patrick Milani, il ressort clairement que l'instrument véritablement de ce harcèlement, ce sont les réseaux sociaux. Pratiquement tout passe par là.
Enfin, c'est l'instrument, c'est ce qui permet l'importance, à mon avis, aujourd'hui.
C'est un amplificateur,
c'est ça. C'est-à-dire qu'avant, il y a toujours eu ce côté harcèlement.
Bien entendu, on n'a rien inventé de ce point de vue-là,
sauf que très souvent, celui qui était harcelé, alors d'abord, il y avait une partie, ce qu'elle disait, des rumeurs qui étaient propagées. Celui qui en était la victime, des fois, il ne le savait même pas, quoi. C'est-à-dire que ça. Alors que là.
Oui, voilà, on parlait dans le dos des gens, en quelque sorte.
Oui, on parle un peu dans le dos des gens. Mais là, maintenant, non seulement on le vit directement, c'est-à-dire qu'on voit soi-même de quoi il s'agit, mais en plus, c'est répandu, j'ai envie de dire, presque mondialement. C'est-à-dire que n'importe qui peut se mettre sur un réseau social, il va voir que un tel a telle rumeur dessus. Donc c'est sûr que ça donne une amplitude beaucoup plus forte. Par rapport à ce que disait tout à l'heure Émilie, je crois que ce qu'il faut dire, c'est que en quelque sorte, quelquefois, il y a une sorte de profil de celui qui va être harcelé. C'est-à-dire qu'en gros, les harceleurs, ils choisissent quelqu'un pour lequel ils vont détecter une faiblesse. Pour lequel on va détecter, alors ça peut être un handicap, ça peut être la couleur de peau, ça peut être ce qu'elle disait, c'est-à-dire le surpoids. Donc à partir de là, ils vont tenir leur proie et on va faire monter petit à petit la mayonnaise. C'est-à-dire qu'au début, on va se moquer de son handicap. Puis progressivement, ça va passer à autre chose. Donc c'est vrai que, par exemple, l'aspect sexuel, c'est un des moyens de rendre honteux la victime. Et ce qui fait aussi, après, que celui qui est victime ne dit rien. Pour deux raisons. La première, c'est qu'il a peur des représailles. Et la deuxième, c'est qu'il est honteux. C'est-à-dire qu'à un moment, lui-même, il intériorise le problème, il culpabilise. C'est-à-dire que c'est la victime qui se trouve coupable. Puisque tout le monde lui en veut, c'est bien qu'il y a quelque chose de vrai. Et c'est ce qui fait un petit peu le côté tragique de la situation. C'est-à-dire que le pauvre gamin, il n'a pas les mots. En général, on choisit une proie isolée, c'est-à-dire qu'il n'y a pas trop de copains. On peut même pas le défendre. Il est tout seul. Et donc, il porte sa croix, quoi. Alors, ce qu'il faut faire.
Donc, ça devient un tribunal, quoi. Ce réseau social.
Seul face au groupe.
Un tribunal d'accusation, avec un dossier à charge entièrement, quoi.
C'est ça, voilà. Seul face au groupe, c'est terrifiant, quoi.
Oui, Michel Santone.
Oui, c'est la recherche classique du bouc émissaire qui permet, évidemment, de souder le groupe sur un objet, en fait, une personne en l'espèce, hein, qui est considérée comme, voilà. voilà, quelqu'un qu'il faut absolument rejeter. Donc, donc cette stratégie du bouc émissaire, on la voit partout se développer. Et c'est vrai qu'en vous écoutant, j'observais qu'il y a quand même trois figures qui reviennent en permanence de bouc émissaire. Hein. La grosse, la pute et l'intello, quoi. Hein. On peut d'ailleurs la piquer au garçon, ça, ben, moins pour l'aspect le putassier, quoi, si je peux me permettre, quoi. Hein. Mais ce sont quand même, pour les filles en tout cas, bon, des trois figures qui reviennent en permanence en boucle. Et par effet de contraste, bon, on voit sur quelle base, sur quels critères se constitue le groupe. Hein, ou se réunit.
Hein. Oui, sur le dos de quelqu'un,
on
est, en fait.
Non, hein. Mais on se réunit autour de figures contraires, en fait, hein, et considéré comme positive. C'est-à-dire, on est mince, en fait, maigre, on est pas pute, hein,
on est dans
sérieuse,
la norme, quoi.
Et surtout, on n'est pas intello, quoi, hein, on n'est pas bourge, comme j'ai entendu dire, y compris dans mon milieu familial.
Bourge et intello,
en classe aujourd'hui, quand on se fait traiter de bourge, c'est pas du tout.
Un petit bémol, quand même, une partie des harceleurs sont des enfants de bourge. C'est-à-dire que les harceleurs, c'est pas que des catégories populaires. Hein. Aujourd'hui, ça peut être des fois même les très bons élèves et les enfants de milieux plutôt favorisés qui sont les harceleurs. Quoi. Mmh. Alors, dans les harceleurs, il y a aussi deux catégories. Il y a le harceleur actif et le harceleur passif. Souvent, c'est un effet de
celui qui compte les coups, quoi, un peu.
Ouais, non. Celui qui est actif, c'est le manipulateur. C'est celui souvent qui a une personnalité un peu narcissique, égocentrée, incapable de ressentir de la culpabilité. Souvent, c'est les autres qui sont coupables, c'est-à-dire qu'en fait, il se cherche, comme l'a dit Michel, un souffre-douleur. C'est un bouc émissaire. Mais il y a aussi les harceleurs passifs, c'est-à-dire que souvent, ils suivent. Ils suivent le manipulateur. Alors, des fois, par effet de groupe, c'est-à-dire que bon, c'est pas bon de pas être du côté du fort, quoi. Hein.
Ça c'est une vérité depuis que l'homme est homme.
Et oui, mais c'est ça qui fait la puissance du truc. C'est-à-dire qu'il n'y a pas souvent... prenez, par exemple, la façon dont les Canadiens ont résolu le problème. Ils ont fait une technique qui s'appelle la méthode des intérêts communs. Eux, ça fait longtemps qu'ils travaillent sur ça. Hein. Donc, ils prennent les harceleurs et on revit les faits avec eux et on les fait parler. Et donc, effectivement, à ce moment-là, on arrive à isoler le leader des autres. Et donc les autres craquent assez rapidement. Et c'est ce qui fait qu'on arrive à faire un travail assez fort là-dessus. Les Canadiens ont un bon taux de réussite par rapport à la résolution des problèmes de harcèlement.
Alors, les Canadiens et alors les Français, justement, où est-ce qu'on en est? Est-ce que, par exemple, dans les établissements scolaires, on est très conscient, parce qu'on aime bien aussi mettre la poussière sous le tapis dans les certains établissements scolaires. C'est pas nouveau, tout le monde l'a vécu. Est-ce qu'aujourd'hui, on fait front au problème, et à partir du moment où on y fait front avec conscience, est-ce qu'on s'y attaque, comme les Canadiens ou d'autres?
Alors moi, j'ai tendance à dire que pendant longtemps, c'est vrai que la France a mis longtemps à se mettre avec les autres. Hein, les Anglais, par exemple, en Angleterre, ont fait une semaine du harcèlement. Bon, en France, maintenant, il y a déjà une journée du harcèlement. Et puis, il y a des organisations. Alors, j'en profite d'ailleurs pour citer au passage, hein, vous savez qu'il y a le numéro 3020 qu'il faut appeler si on est sujet, si on est la victime de harcèlement. C'est-à-dire que, comme je le disais tout à l'heure, les personnes harcelées ont tendance à se taire. Donc, ce qu'il faut faire...
C'est ce que disait tout à l'heure Émilie, elle se renfermait encore
c'est
plus.
C'est difficile de parler.
On va y revenir avec Émilie.
Ce qu'il faut à ce moment-là, c'est parler. Il faut que celui qui est harcelé, d'abord, il parle à des adultes. Hein. Alors, il y a des CPE, il y a des profs principaux, il y a les parents, il y a quand même plusieurs personnes. Si c'est trop difficile de parler à des gens qu'on connaît, il ne faut pas hésiter à utiliser les organisations qui existent. Donc, par exemple, appeler le 3020. À ce moment-là, on vient d'ailleurs d'élargir les plages horaires hein, pour lesquelles on peut... Et là, on sera mis en contact avec des gens qui sont formés pour ça. Parce que la difficulté aussi, c'est de croire qu'on peut résoudre le harcèlement par la force, c'est-à-dire d'aller trouver le harceleur...
Et de lui casser la figure.
Et voilà, ça marche pas à tous les coups, parce que quelquefois, les harceleurs, ils sont à la limite, j'ai envie de dire, du problème psychologique. Donc, on le raisonnera pas, quoi. À la limite, il attendra le moment où il va pouvoir se venger sans être pris. Donc, il vaut mieux laisser faire les gens qui sont formés pour ça, quoi. Alors, ça ne veut pas dire qu'au niveau local, il n'y a rien à faire. Hein. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on peut essayer d'intervenir, mais il faut le faire quand même d'une manière assez subtile, hein, parce que des fois, les conséquences peuvent être pires, quoi.
Alors, je reviens vers Émilie Deschamps. Vous étiez tout à l'heure notre premier témoin. Vous nous expliquiez que vous vous êtes renfermé davantage. Alors, maintenant, vous avez un recul. Qu'est-ce que vous diriez, qu'est-ce que vous conseilleriez, fort de votre expérience, à ceux qui sont harcelés ou qui se sentent harcelés? Quel comportement leur conseillez-vous de tenir?
Que même si on a honte, même si on a honte des propos que disent les autres, il faut vraiment en parler à ses parents. Si on est vraiment proche d'eux, en parler à ses parents ou à sa famille, avec qui on est proche, un cousin, une cousine. Et c'est eux qui vont vous aider à faire quelque chose, et même à une amie. Moi, j'ai parlé à mes parents, quand j'étais au collège, ma mère se doutait que quand je rentrais à l'école, je pleurais tous les soirs.
Oui, elle avait remarqué que vous aviez un comportement anormal.
Elle a vu que j'avais changé, donc du coup, elle m'a posé beaucoup de questions, et ce jour-là, j'ai pleuré. Et c'est elle qui a fait les démarches, elle est allée voir les CPE, elle a parlé beaucoup avec elle. La CPE a fait en sorte que tout le monde arrête. Bon, ça ne s'est pas arrêté, ça a continué. Mais au fur et à mesure, ma mère, elle m'a aidée, et j'ai eu une autre amie qui a su me faire remonter, et j'ai pu me libérer de... Ouais, on va dire ça comme ça, se libérer de toutes ces attaques. Et quand je suis partie du collège, donc en troisième, j'avais toujours cette amie qui m'aidait à m'élever, enfin, je ne sais pas comment dire. Mais...
À se libérer.
Ouais. Oui, et à vous en sortir.
Oui, elle a tout fait pour que je m'en sorte, et je ne saurais jamais comment lui remercier. Donc le message que je pourrais faire passer, c'est vraiment qu'il faut en parler, même si on a honte.
Mmh. Et vous, là, le numéro, je crois, c'est le 3020.
Oui.
Vous conseilleriez ces numéros de téléphone anonymes qui s'adressent à des spécialistes?
Pourquoi pas? Parce que si vraiment on a personne, personne on veut parler, moi je pense que ça serait une bonne idée.
Mais ça serait en second recours, pas en premier pour vous. Plutôt les proches.
Plutôt ouais, les proches, puisqu'on les connaît mieux. Mais si vraiment, en deuxième recours, je prendrais le numéro.
Absolument sortir de la boucle, de la boucle harceleur-harcelé.
Oui.
Il faut rompre immédiatement cette relation, parce que le problème, c'est que souvent, les harcelés intériorisent l'image que leur envoie effectivement les harceleurs. Donc, si on ne sort pas de cette relation-là, d'une manière ou d'une autre, par les parents, par un coup de téléphone, etc., on est cuit, on est mort, je veux dire, socialement parlant. Donc, effectivement, la première des choses à faire, c'est ça. Pour redonner la confiance, et assumer, effectivement, à la limite, cette image négative envoyée par les harceleurs, pour la transformer au contraire en positivité, et en combat contre eux, en disant je m'assume comme je suis, donc vous mais à 10 mètres, voilà comment je vais vous combattre. Donc c'est ça, la première des choses, sortir de la relation harceleur-harcelé, me semble-t-il.
Oui, c'est ça, tout à fait.
Eh bien, nous invitons, non seulement nos invités, mais surtout les auditeurs, à aller voir ce film. Alors comment fait-on? Il est sur Internet, Patrick Mileni.
Oui, il est sur Internet, sur YouTube. Donc le film s'appelle Grave. Il y a plusieurs façons.
Alors, qu'est-ce qu'il faut taper simplement? Ne pas donner un lien qui est hyper compliqué.
Oui,
que personne
non, non,
ne retiendra.
Non. Alors c'est simple. Vous allez sur YouTube. Soit vous mettez mon nom, Patrick Mileni, puisque des fois c'est le plus simple. Sinon, on met grave.
Si on met votre nom, ça sera pas du harcèlement. Hein,
rassurez-vous. Non. Je dis ça parce que grave. Le problème, et c'est pas à vous que je vais l'apprendre, grave en anglais, c'est quand même un mot qu'on retrouve dans beaucoup de films. Et donc quand on met grave, YouTube étant une structure internationale, on va tomber sur plusieurs pages de films.
Grave en anglais, c'est une tombe, soyons
c'est
très
ça,
clairs.
C'est ça, oui, non, mais c'est vrai qu'on va. C'est quand même un mot qui est quand même couramment utilisé dans le cinéma. Et d'ailleurs, j'ai vu que Julie Gayet sortait un film l'année prochaine qui s'appelle Grave aussi. Donc bon, c'est pour ça que je dis, c'est quand même plus simple des fois de le taper par mon nom, Patrick Mileni, ou alors simplement mettant des fois harcèlement scolaire, ça y mène aussi, puisque le film a déjà à peu près 400 000 vues, donc aujourd'hui il arrive parmi les films en tête sur la page Facebook, quoi.
Bien, et bien, merci à vous trois, donc Patrick Mileni, Émilie Deschamps et Marianne Ferré. Tout dernier, alors la conclusion.
Mais il ne reste plus qu'à partager, un maximum sur Facebook, ce film, justement, cette vidéo.
Voilà, merci à vous trois encore, et nous conseillons bien évidemment à tout le monde d'aller regarder ce film, et particulièrement aux élèves qui sont les premiers concernés. C'est ainsi que nous concluons ce premier radio-barque de la saison 2016-17. Bien entendu, rendez-vous à la semaine prochaine. Notre invité, il sera, alors on parlait tout à l'heure de J'aime Narbonne, ça sera le porte-parole de l'association J'aime Narbonne, Nicolas Saint-Cluc. Merci à vous et à la semaine prochaine.
Bientôt.